4 pour 1 euro.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud pousse d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver. Vous les entendez, nous sommes en public au studio Merlin d'Europe 1 pour une émission spéciale Réveillon de Noël. Alors entre le bon saumon fumé, la cuisson de la volaille et les produits de fête auxquels on ne pense pas assez, on va tout vous dire. Et puis sur les coups de midi, nous recevrons Cyril Lignac qui viendra nous présenter sa nouvelle bûche, on va se régaler. Mais en attendant, laissez-moi vous présenter mes bons vivants de Noël. Une cuisine généreuse, le goût prononcé de la transmission. Avec lui, c'est tous les jours Noël. C'est Yves Candebord.
Bonjour Yves. Bonjour tout le monde.
Ravi de vous retrouver, cher Yves.
Ravi d'être là.
Si le Père Noël avait un prénom, pour lui, pas d'hésitation, ce serait Bacchus. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Oh oh oh, bonjour les amis.
Ah, vous faites bien le Père Noël.
Pas mal, hein.
Oh, bon, on y croit bien, dites donc. C'est vrai que c'est votre deuxième métier, au niveau dans la cave uniquement. Jean-Luc Petit-Renaud nous racontera une belle histoire de Noël et Marion Sauveur nous fera rêver avec une sélection de bûches haute couture. Eh bien voilà, vous savez tout, en route sur le traîneau des bons vivants. C'est parti jusqu'à midi et demi. Alors, on va vous emmener sentir les belles saveurs du vin chaud sur un marché de Noël tout à l'heure à Strasbourg. Mais en attendant, eh bien, comme le veut la tradition, je vais vous demander votre goût, non pas de la semaine, mais votre goût de Noël. On va commencer par vous, Yves Candebord. Quel goût symbolise Noël pour vous ?
Ah mais moi, le goût de Noël, c'est la bûche de Noël. Mais attention Laurent, pas la bûche de Noël comme on trouve aujourd'hui. La bûche de Noël roulée, le biscuit roulé au marron avec un zeste de rhum posé dessus.
Pas les bûches de pâtissier qui sont surgelées à l'avance, vous voulez dire, et qu'on nous vend en vitrine.
Exactement, pas les bûches où on voit là des couleurs, des multicolores. Des mousses multicolores mises les unes sur les autres. Alors j'ai la chance à Paris d'avoir trouvé ça. C'est une boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Les Artisans, rue Montmartre, et qui fait des bûches roulées, un biscuit roulé. Et je peux vous assurer que quand je vais aller le chercher, pour moi, j'ai l'impression de retourner à Navarinx, à l'hôtel du commerce, chez ma grand-mère, qui chaque année à Noël nous faisait une bûche d'exception.
Mais on a tous des souvenirs de bûches roulées. On en parlera tout à l'heure avec Cyril Lignac, qui viendra avec sa nouvelle bûche et qui nous parlera de sa bûche roulée traditionnelle à faire à la maison. Il vous donnera ses secrets. Votre goût de Noël, Olivier Pouls.
Mais c'est aussi un souvenir de grand-mère, mais ce n'est pas la bûche. Moi, c'était le foie gras. On reste vraiment dans le classicisme de Noël. Mais alors, je veux bien vous avouer que, en fait, elle ne le faisait pas très bien. Ma grand-mère n'était pas une très bonne cuisinière. Mais quand même, la magie à l'époque, pourtant pas 100 ans, hein, mais c'était vraiment un produit rare et qu'on ne mangeait qu'une fois par an. Donc c'était vraiment un événement. Et même si, ma foi, il n'était pas terrible, il avait quand même un sacré goût, celui de se retrouver en famille.
On est tous dans la tradition. Moi, mon goût de Noël, c'est la poularde avec une belle farce au marron, un peu de foie gras si on veut, mais une belle farce au marron dans une belle volaille bien cuite. On parlera de volaille aussi tout à l'heure. Je parle de poularde, mais ça peut être une pintade ou ça peut être un bon poulet fermier, hein, Yves Candebord.
Oui, tout à fait, ou même un chapon. C'est vrai que la volaille en général à Noël, et je pense qu'il est vraiment l'élément principal du plat principal.
Vous sentez ces petites notes d'épices, ces effluves de vin chaud? Eh bien, Arthur Elmbacher nous fait visiter ce samedi matin le marché de Strasbourg. C'est le plus grand marché de Noël en cette période. Alors, quels sont les produits que vous aimez retrouver pour les fêtes? Réponse au micro d'Arthur Elmbacher à Strasbourg.
Ah bah des bredelas, évidemment. Beaucoup de bredelas, bien sûr.
Vous prenez avec le café?
La majorité est déjà prête maintenant et cachée quelque part dans la maison pour pas qu'on y touche.
Un bon vin chaud, qu'est-ce que vous mettez dedans? Bonjour madame.
Ah bonjour, on met de bonnes épices, déjà entières, de la cannelle en tube, de l'anis étoilé, on met des clous de girofle, et puis on met du sucre, des oranges, et puis voilà, après c'est la cuisson qui est importante, faut savoir le faire, faut jamais le faire bouillir. On le couvre et on le laisse macérer pendant 24 heures dans les épices. Et puis après il est bon, voilà.
Tiens, et on tombe sur Christophe Muller de chez Paul Bocuse qui fait des dégustations de foie gras devant la cathédrale. J'aimerais bien savoir, j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il y avait comme spécificité au foie gras alsacien par rapport aux autres.
En Alsace, on veut toujours un foie gras qui est un peu acide et où on sent beaucoup le poivre. Et la façon de le faire, en Alsace, on le broie à la main et il y a vraiment une compotée. Moi, j'étais apprenti donc chez Paul et Berlin à l'Auberge de Lille. Avec ses mains, il avait une façon de mouler ses terrines qui est unique.
Ah, le tour de main de Paul et Berlin, camarades d'enfance, j'allais dire, ils sont connus à la guerre, de Paul Bocuse, chez qui travaille Christophe Muller. C'est amusant de le retrouver sur ce marché de Noël avec son foie gras.
Oui, puisqu'il est amusant aussi, voilà, c'est qu'il parle de tradition. Le foie gras, c'est vrai que moi, en tant que gars du Sud-Ouest, je dirais quand même qu'il est de chez nous.
Oui.
Mais c'est vrai que l'Alsace a une très, très belle tradition de foie gras. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le travaille pas de la même façon. Chacun voilà sa petite histoire, chacun a son petit tour de main. Et ça fait des vraies différences. Et c'est ça, la France. Les artisans français, dans chaque région, ont leur typicité qui fait cette gastronomie assez incroyable.
Et on trouve plus de foie d'oie aussi en Alsace, oui, dans le Sud-Ouest. Autant le Sud-Ouest, c'est la patrie du canard, c'est chez vous, mais en Alsace, on trouve encore pas mal de foie d'oie.
C'est issu de la tradition de la communauté juive, effectivement, qui a amené beaucoup d'oie et qui a perpétué une tradition des pays de l'Est. Et on parlait des vins de Noël et des vins chauds dans cette séquence. Là aussi, attention, on fait le tour du marché parce qu'il y a arnaque sur le vin chaud. Il y en a quelques-uns qui ne valent pas leur nom, Olivier Pouls.
Oui, qui mettent des sachets tout préparés d'épices ou de je ne sais quoi dedans, ça n'a pas de goût. C'est vrai que quand c'est fait, il faut que ce soit fait à l'avance. Il y a quelques règles, elles ont été dites d'ailleurs dans le sujet, ne jamais le faire bouillir. Mais quand c'est bien fait dans les règles de l'art, qui fait un petit peu froid, c'est quand même sacrément réconfortant.
Petite devinette, tiens. Je nettoie l'organisme après des excès. J'ouvre l'appétit avant les agapes du réveillon. Certains me trouvent creuse, d'autres plate. Je suis
L'huître.
Eh bien, elle sera là, mais une belle huître plate de Cancale qui s'invite à la table des bons vivants. Juste après ça. Il y a intérêt que vous restiez. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Ah ben on y est là, Noël. Eh oui, merci d'être avec nous au Studio Merlin en public. Venus nombreux avec nous pour partager ce pré-réveillon de Noël, parce qu'il faut le préparer, ce réveillon de Noël. Alors c'est vrai, on en parlait, elles font la fierté de nos littoraux, on les attend de pied ferme pour les fêtes. Les huîtres sortent de la bourriche pour notre plus grand plaisir. Bah tiens, on avait une jolie chanson, j'ai envie de continuer avec la poésie, tiens. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde à boire et à manger, sous un firmament de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, c'est l'huître. C'est beau quand
très
même
joli,
ça.
Très, hein, très joli.
J'ai la voix coupée.
Moi, je voudrais que vous ressortiez ça à chaque convive à votre réveillon. Olivier,
non, vous pouvez venir le déclamer.
Ben oui, voilà. Non, mais ça change de passe-moi le vinaigre à l'échalote quand même.
Oui. Ah oui, surtout que le vinaigre à l'échalote sur l'huître, alors là, non, quoi.
On est d'accord. Le tour de moulin à poivre, voilà. Éventuellement.
Éventuellement, et la petite pointe de citron, une petite goutte de citron.
Si on veut, voilà. Alors,
très léger.
On va aller du côté de Cancale, des coquilles et l'huître. Mais juste avant, un petit mot sur la France et l'huître, Olivier Pouls, parce que nous sommes quand même le plus gros producteur d'huîtres en Europe.
Ben oui, on a un grand littoral, et c'est vrai que des huîtres, on en trouve tout le long de nos côtes. Les côtes, évidemment, bretonnes, normandes, même en descendant plus bas, les bassins d'Arcachon aussi, mais en Méditerranée, on trouve également de l'huître. C'est vrai que partout...
En Corse aussi, dans certains étangs. Hein.
Exactement. C'est vraiment une grande... Et puis, on est des grands consommateurs d'huîtres aussi, bien évidemment. Mais on a des eaux qui sont particulièrement adaptées et surtout un savoir-faire très adapté. Et je pense que nous faisons les meilleures huîtres du monde, d'ailleurs.
Et Yves Candebord, au départ, on peut dire que l'huître était plate.
Oui, oui, hein, l'huître était totalement plate. Elle a disparu un peu, je dirais, des tables gastronomiques et des tables du quotidien en France dans les années 70 suite à une maladie. Et aujourd'hui, on arrive à retrouver des huîtres, parce qu'il faut savoir que l'huître, la belon, ce qu'on appelait la belon, l'huître plate qui vient de Rieux-sur-Belon, c'était l'huître gastronomique. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir travaillé des triple zéro, on a travaillé gratiné au champagne, et c'était une petite merveille. Et aujourd'hui, on voit maintenant revenir sur les étals ces huîtres, et c'est vrai que je dirais qu'elles ont une finesse supplémentaire. Je trouve qu'elles ont un petit goût de noisette et une légèreté au palais qui est très agréable. Il faut savoir aussi la grosse différence qu'il y a entre la plate et la creuse, c'est l'élevage. La creuse est élevée souvent sur des tables ou alors dans des sacs, tandis que la plate est vraiment de pleine mer, c'est en mer et à même du sol. C'est ce qui lui amène toute sa caractéristique.
Alors vous parliez de l'huître plate du Belon, qui est une rivière en Bretagne.
Voilà.
Mais il y a aussi l'huître plate de Cancale, c'est une autre appellation qui est en voie justement de formation, un autre terroir. Et bien direction Cancale, en Ille-et-Vilaine, à la rencontre de Richard Beaulieu, un ostréiculteur investi corps et âme vraiment dans l'huître plate. Il a repris le flambeau de ses parents passionnés par l'huître. Et Julien Amat est monté à bord pour sortir l'huître plate de sa coquille. Écoutons.
L'huître plate, étant donné qu'elle n'a jamais vu le jour depuis le moment où elle a été semée, donc c'est-à-dire que là, c'est des huîtres qui ont 3 ans et demi, qui n'ont jamais été sorties de l'eau. Moi, je suis pour une huître née et élevée en mer, parce que je pars du principe que voilà, c'est un produit naturel. Faut pas oublier qu'on est dans une région où on a les plus grandes marées d'Europe, donc avec un flux d'eau très important régulièrement. Alors l'huître plate s'ouvre par la charnière, Donc on glisse la pointe du couteau et c'est la main qui tient l'huître qui doit bouger sur la lame du couteau. Vous faites levier, coupez le muscle et voilà.
L'huître ne remplit pas toute la coquille, c'est normal ?
Oui, parce que la chair est beaucoup plus fine sur la partie extérieure. Donc c'est pour ça que l'huître plate, il ne faut pas hésiter à prendre un numéro un petit peu plus gros par rapport à une huître creuse.
Alors il y a un côté acidulé.
C'est vraiment un coquillage complètement différent. Quand on mange une coquille Saint-Jacques crue, on se retrouve ce petit goût acidulé, un petit peu iode, qu'on retrouve un petit peu avec l'huître plate aussi. L'huître, il faut croquer, sinon si c'est juste pour la gober, il n'y a aucun intérêt au niveau du goût. C'est là qu'on se rend compte que le goût reste longtemps en bouche, on va dire.
Oui, on ne la gobe pas, voilà, et on est dans l'eau. On la mastique, absolument, il faut bien mâcher l'huître. C'est vrai que c'est une huître qui a de la mâche, hein, Yves Candebord.
Oui, c'est une huître qui a de la mâche, justement, c'est pour ça que c'est une huître aussi très intéressante à travailler en chou. Mm. Et ce qui est vraiment plaisant, ce que disait à l'instant, c'est voilà, cette longueur de palais. Et c'est une longueur de palais qui est soyeuse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour vous mettre en appétit, pour vous nettoyer les papilles gustatives, pour vous mettre
ça votre marche dans les deux fraîcheur. Sens, après les excès et avant, je voilà. trouve.
Et avant, hein. Là, vous avez envie de manger, ça appelle à manger. Je veux dire, c'est vraiment l'entrée. Vous ouvrez la porte d'entrée, on vous sourit, on vous dit bienvenue, vous asseyez à table, vous avez envie de manger.
Bah comme ça, on fait ici au studio Merlin avec nos amis auditeurs qui sont venus, on leur offre des huîtres plates de Cancale. Merci à Richard Beaulieu pour son beau travail. Elles vous plaisent, messieurs, dames ? Hein, c'est bon, ça, hein ? Moulin à poivre, citron ? Non, échalote ? Non, que des puristes, hein. Des puristes,
Laurent,
pas d'échalotes.
Quand on a ce niveau de qualité d'huître, il y a besoin, c'est vrai, de rien.
Nous sommes d'accord. C'est vrai qu'elle fait des miles, l'huître, hein. Elle se trimballe, elle voyage. Au Japon, on aime aussi manger des huîtres, Yves Candebord.
Oui, totalement. Alors, ils ont des façons de la manger un peu différentes de nous, mais c'est vrai qu'ils les aiment surtout griller, et souvent, ils les font griller au feu de bois. Le contraste entre ce iodé, cette douceur et le feu de bois est très agréable.
Qu'est-ce qu'on boit avec les huîtres, alors, au réveillon ?
Alors, grande question. Alors, il y a évidemment la version classique, le muscadet, mais on va essayer d'être un peu plus original. Et moi, il y a un accord que je trouve assez extraordinaire, qui est un vin rouge, qui est un vin rouge de Pinot d'Aunis qu'on trouve dans la Loire. Et ça donne une caractéristique de vin poivré. Et ce vin poivré avec des huîtres telles qu'on les a là, des huîtres plates par exemple, c'est assez extraordinaire.
Eh bien on prend, merci Olivier Pouls pour la sélection. Yves Candebord.
Et je pense aussi qu'il faut signaler que l'huître plate, c'est de la diploïde, il n'y a pas de triploïde.
Vous avez raison, voilà, elle n'a pas été modifiée génétiquement. Parce qu'on a modifié les huîtres pour qu'elles tiennent les quatre saisons et qu'elles ne soient plus laiteuses et qu'elles n'aient plus de cycle de reproduction. Et encore une fois, revenons à la nature et à l'essentiel, l'huître diploïde. Vous avez raison Yves Candebord. Après les huîtres, on a de la bûche sur la planche. Marion Sauveur va nous présenter la collection Hiver 2019 et vous allez entendre, ça ne manque pas d'idées. A tout de suite pour préparer le réveillon.
On passe à table sur Europe 1.
Et joyeux Noël, ma Musquin.
Il n'y a pas de mal.
Laurent Mariotte.
C'est cela. Oui, Mme Musquin, c'est bientôt Noël, absolument. Bon samedi à la table des bons vivants. Nous sommes en public au studio Merlin avec Yves Candebord et Olivier Pouls. Nous sommes là pour vous aider à bien préparer le réveillon. Cyril Lignac sera notre invité sur les coups de midi. Il viendra avec quelques bûches à déguster et à fabriquer à la maison. Mais en attendant, on va vous donner des conseils et des bonnes adresses pour bien choisir vos produits de fête. Ce sera juste après le journal de la cuisine de Marion Sauveur. Bonjour Marion Sauveur.
Bonjour.
Bonjour Marion.
Ravi de vous retrouver et un journal de la cuisine. Cuisine particulier aujourd'hui puisque c'est un journal de la cuisine consacré aux bûches de Noël, une sélection très très spéciale. Eh bien voilà, il vient de sortir de la cheminée, on peut y aller. C'est parti pour votre sélection des plus belles bûches de Noël, Marion.
Oui, alors j'en ai choisi trois. Hein. Ce ne sont pas des bûches que nous allons nous offrir cette année, mais on va vraiment en entendre parler. Alors on est loin du temps de la simple bûche hein, roulée, n'en déplaise à Yves Candebord, au niveau des prix d'ailleurs aussi.
Ah oui, alors, ça fait mal parfois.
Oui, ça fait vraiment mal. La première, c'est la plus indéplaçable. Elle relève plus d'une œuvre d'art que d'un simple gâteau. C'est en fait une grande roue, comme dans une fête foraine, hein, de 40 cm de haut. On s'imagine vraiment pas à prendre le train avec. Hein. Son petit nom, c'est Agapé, signé du grand pâtissier Pierre Hermé. Et le gâteau en lui-même est la base du manège et la roue est en chocolat. Et il y a une manivelle hein, qui permet de faire tourner cette roue.
Mais il y a une bûche en dessous quand même qui est parfumée à quoi alors
cette
bûche ? C'est
ça, une bûche avec un pain d'épices, un confit de fruits secs et une crème mousseline au citron. Et puis les nacelles, elles sont garnies de macarons, de nougat, de caramel. C'est vraiment le dessert haute couture hein, par définition.
Allez, qu'on rigole, combien ça coûte ?
Allez, 250 euros.
Non.
8 personnes.
C'est vrai, pour 8 personnes.
Oui, oui.
Ah oui, Pierrot, bah, il fait des bûches un peu plus classiques, Pierre Hermé, quand même.
Oui, bien sûr, il y en a des plus abordables.
Votre deuxième choix, c'est une bûche au chocolat,
et
Marion.
Oui, et c'est la plus osée, puisqu'elle est signée Jacques Genin, qu'on recevra d'ailleurs la semaine prochaine à cette table. Et à première vue, la bûche est tout ce qu'il y a de plus classique dans sa forme et au chocolat, par exemple.
C'est au niveau du goût qu'elle est osée, en fait.
Exactement, hein. Capre et chocolat. Alors, les capres, en fait, apportent un équilibre avec l'amertume du chocolat, la douceur du praliné.
C'est super.
Et cette pointe salée des capres, c'est génial. C'est une saveur qui reste en bouche. Et cette fois, elle est un peu plus abordable puisque c'est à partir de 38 euros pour 4 personnes.
D'accord. Donc là, on vient dans des tarifs un peu
Jacques
plus...
Genin fait déjà un chocolat
incroyable.
Chocolat c'est capre, c'est incroyable.
Il sera là la semaine prochaine, Jacques Genin, dans ce studio pour nous parler justement des mendiants, des truffes qu'on peut faire à la maison.
Et le capre au chocolat, je pense que c'est la situation qu'il faut vraiment goûter une fois dans sa vie.
J'ai goûté ces petits chocolats qu'il fait. C'est très, très étonnant.
C'est merveilleux ce qu'il fait.
Une dernière pour la route.
Et oui, la plus waouh, c'est la bûche incandescence de chez Fauchon, un gâteau en forme de couronne avec par-dessus une sphère rouge en sucre soufflé. Il faut allumer la mèche qui est à l'intérieur de ce sucre soufflé. Ça scintille lorsque vous la portez à table, ça fait vraiment de l'effet. Alors avec ce dessert, François Daubinet bouscule tous les codes de la bûche puisque au niveau du goût, il a choisi la banane flambée. C'est assez surprenant. Cette bûche coûte tout de même 130 euros.
Bah dites donc, on va faire sa bûche rouler à la maison. Je crois que c'est pas mal.
Qu'est-ce que
vous en pensez, hein? Voilà, et on va donner des trucs tout à l'heure justement pour faire sa bûche rouler à la maison avec Cyril Lignac qui sera notre invité. Merci Marion Sauveur et à tout à l'heure. Le repas de Noël approche, saumon fumé, foie gras, volaille et fromage. Avec Yves Candebord et Olivier Pouls, nous allons passer en revue les incontournables du réveillon. On va commencer par le saumon fumé. Tiens, ici, dans le public au sud de Merlin, qui va mettre du saumon fumé à table le soir du 24? Pas tant que ça, finalement. Eh oui, donc il serait en perte de vitesse, le saumon fumé. C'est vrai qu'on était...
Bah, peut-être parce qu'on en mange trop tout au long de l'année et perd son caractère
et
festif.
Et pas forcément du bon, quoi, parce que voilà.
Pas forcément du bon, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le saumon fumé, qui était vraiment un produit, justement, de fête, on le consommait pratiquement qu'à Noël. On arrive à le consommer toute l'année, et malheureusement, quand on consomme ces produits toute l'année, on a des produits vraiment d'une qualité qui sont vraiment... très moyenne, très très moyenne.
Mais pourtant, 72% des Français le jugent incontournable pendant les fêtes. Donc, il faut déjà bien choisir le mode d'élevage, un saumon bio ou label rouge qui vient d'Écosse. Même en Norvège, on décrit beaucoup le saumon de Norvège. Il y a des fermes quand même familiales qui font du bon travail. Donc, il faut bien sélectionner. Mais on évite les saumons effectivement gonflés à la piqûre avec la saumure pour faire gonfler les chairs et les prix.
Oui, totalement. Je pense que le saumon fumé, malheureusement, c'est un produit aujourd'hui qui est totalement dévalorisé. Donc, conservons la qualité, faisons le choix de ne pas en manger souvent, faisons le choix d'en manger peut-être qu'à des moments très importants ou qu'aux fêtes, et mettons justement les quelques euros de plus qu'il faut pour avoir de la qualité.
Quelques adresses d'artisans tiens, chez lesquelles vous pourrez trouver du bon saumon fumé. Il y a la maison Bartouille qui est installée à Peyrorade dans les Landes, qui fait un saumon fumé d'une grande qualité, fumé au bois d'aulne, un fumage pas trop chaud, pas trop violent, qui donne un goût subtil au saumon. Il y en a d'autres aussi. Hein,
oui, la maison Frangille à Épinot, les Vauves, dans l'Yonne, petit village, où là aussi c'est une fabrique tout à fait artisanale et familiale, qui travaille d'abord, qui source très très bien ses saumon et puis qui travaille avec un vrai savoir-faire.
La maison Lucas à Quiberon aussi dans le Morbihan qui fait un très beau saumon fumé.
On a la chance à Pau d'avoir un tout petit artisan qui s'appelle Castec.
Il y a tout à Pau.
Voilà. Il y a pratiquement tout à Pau. Il y a pratiquement tout à Pau. Et c'est un tout petit artisan qui fait vraiment de petites quantités et c'est vraiment très très fait, la maison Castec.
Vous le dégustez comment, le saumon fumé? Nature ou avec du citron? Parce que là aussi, il y a des bains. Moi, c'est nature, personnellement.
Alors moi, je vais vous dire, moi, ce que j'adore, c'est avec un blinis. J'adore côté, voilà, avoir un petit blinis bien moelleux, un peu tiède, et de faire ce contraste saumon fumé et blinis tiède. C'est très agréable.
Alors moi, j'aime rajouter une petite pointe de réfort.
Ah, c'est pas mal. Oui, vous en mettez partout du réfort. J'ai
j'aime bien ça.
Vous aimez bien ça, oui. Le gravlax de saumon, c'est facile à faire. Vous achetez un beau filet de saumon chez votre poissonnier, pareil, bio ou label rouge, et vous allez faire votre gravlax. Ça vient de Suède, c'est une marinade sèche. Moi, je me suis amusé à le faire pour les fêtes à la télévision, par exemple, avec de la verveine séchée, du poivre de Madagascar et du sucre. Vous massez bien votre saumon, vous le laissez minimum 48 heures vraiment dans le réfrigérateur. Il va se raffermir et il sera parfumé. Vous pourrez juste le tailler en tranches comme ça, et vous aurez un gravlax maison, Yves Candebord.
Ouais, c'est vrai que c'est très facile à faire, et en plus, voilà, on peut s'amuser selon son goût.
La truite est une bonne alternative, je trouve, aussi au saumon. On a de belles truites fumées en France.
En France, il y a beaucoup d'élevages bio de truites, d'ailleurs, on en trouve dans les Pyrénées.
Banca, une superbe région pour la truite. et on a des produits assez incroyables.
Alors passons côté terre maintenant avec un classique qui peut faire débat mais qui rassemble les amateurs, c'est le foie gras. Qui aura du foie gras à Noël sur sa table ? Là on est un peu plus nombreux, voilà, ouais, ouais. Bah, voilà. Effectivement, c'est ça la tradition, ça reste incontournable. Un joli foie gras mi-cuit qu'on peut faire à la maison, hein. C'est pas compliqué ça Yves Candebord. Hein.
Ah oui, moi j'ai donné il y a quelques années, d'ailleurs j'ai eu, je dirais, les foudres de toute ma profession, un foie gras cuit au micro-ondes.
Oui,
c'est un foie gras mi-cuit qui est très facile à faire, le foie gras entier, voilà, qui a été bien trempé un peu dans moitié lait, moitié eau pour enlever un peu toutes les impuretés. Simplement salé de sel, de poivre, une pointe de sucre, une pointe d'armagnac, roulé dans un papier film, mettez 2 minutes au micro-ondes, vous le glacez instantanément après dans de l'eau glacée, vous le laissez au réfrigérateur. Et je peux vous assurer que c'est un foie gras.
C'est bluffant.
C'est bluffant.
C'est bluffant. Voilà, c'est bluffant. Je l'ai fait avec vous, je l'ai goûté avec vous. C'est vraiment bluffant. Qu'est-ce qu'on boit avec un foie gras, Olivier Pouls ?
Eh bien, on va casser là aussi un peu les codes. On va laisser de côté les vins trop liquoreux, trop riches, qui vont nous rassasier en début de repas. Au plus ça va, au plus j'aime le vin rouge avec le foie gras, figurez-vous. Et il faut prendre un vin rouge qui a même un petit peu de tanin. Prenez un joli vin de Bordeaux. Regardez, je vous en ai apporté un, tiens. Un second vin du Château Bataillé, à Pauillac. Et vous allez voir que la structure de ce vin, avec un peu de fermeté et avec le moelleux du foie gras, je trouve que ça marche très bien.
Alors, pendant que vous parlez vin, Olivier Pouls, nous sommes en train de faire déguster au public ici au Studio Merlin du foie gras mi-cuit, grillé, à la façon d'Alain Dutournier, pour la maison Bartouille. Ça aussi, c'est une belle création. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames ? C'est bon, ça, voilà. Ah oui, ils ne parlent pas, donc ça veut dire qu'ils aiment beaucoup. Il y a un petit côté fumé, je trouve, qui est très intéressant. C'est une recette de la grand-mère d'Alain Dutournier, qui s'amusait à prendre son foie gras cru et qui le mettait sur les braises pour lui donner un petit côté grillé et fumé. C'est intéressant, ouais, Yves Candebord.
C'est très, très intéressant. Bon, Alain est un immense cuisinier. Et c'est vrai que ce goût, les gens l'ont fumé. Et en plus, je trouve que c'est... Voilà, des fois, le mi-cuit peut être un peu écœurant parce que ça amène une rondeur en bouche qui peut être désagréable. Tandis que là, justement, avec le côté fumé et le côté grillé, ça amène un très bel équilibre.
Autre création avec du foie gras dont j'aimerais vous parler, c'est la langue de Lucullus, qui est un classique de la cuisine française. C'est de la langue de veau avec une mousse de foie gras intercalée entre chaque petite couche de langue de veau. Et il y a David Daven, qui est traiteur à Douai, qui fait cette langue Lucullus de façon admirable. Ça aussi, c'est peut-être aussi un pas de côté pour changer du foie gras traditionnel sur la table du réveillon de Noël. Vous voyez, il y en a des idées avec le foie gras et avec les fêtes. Dans la grande tradition du réveillon de Noël, n'oublions pas les belles volailles et les fromages. On vous aide à bien les choisir dans un instant. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Noël approche, on a déplié les rallonges ce matin. Nous sommes en public au Studio Merlin avec une sélection de produits de fête, des classiques et d'autres auxquels on pense moins. Alors après le saumon fumé et le foie gras, passons au plat de résistance, la volaille de Noël. Alors là aussi, le casting est large, la dinde, le chapon, la poularde, mais on pourrait rajouter un bon poulet fermier, un canard de barbarie,
une canette de loi
aussi. Allez, on commence par quoi ? Par la poularde, Yves Candebord ?
Moi, je vais faire la dinde.
La dinde, allez, faites-moi la dinde.
Je trouve que la dinde, c'est vraiment le plat familial par excellence. Une dinde, ça peut peser oui, jusqu'à 18 kilos.
Mais c'est un peu sec, la dinde, non ?
Alors, c'est un peu sec, j'ai envie de dire, Olivier, si c'est mal préparé, quoi. Voilà, c'est toujours le problème, il faut la faire avec douceur, la dinde. Mais la dinde aussi, c'est un plat accessible à tout le monde. Voilà, c'est peut-être la moins onéreuse de toutes.
C'est vrai, c'est bon marché.
Alors, pour faire une bonne dinde, il faut prendre son temps.
On la poche ou on la poche pas ?
Alors, moi, je ne suis pas pour la pocher parce qu'à la maison, le fait de la pocher, de la rôtir après, ça, c'est assez compliqué à faire. Je suis en train de dire, je vais la braiser. C'est-à-dire que je vais la démarrer dans une cocotte en fonte, c'est l'idéal, ou une grosse cocotte. La démarrer tout doucement au four, tout doucement, tout doucement. Mais vraiment, il ne faut pas démarrer au-dessus de 110, 120 degrés. Et la laisser rôtir. Et au bout d'un moment, quand elle va commencer bien à prendre des couleurs, je vais la déglacer, Laurent. Je vais lui rajouter de l'humidité. Là, je vais m'amuser de faire un mélange avec moitié eau, moitié vin blanc.
Ouais, c'est bien ça.
Et je vais déglacer ma dinde. Je vais y mettre, là, à ce moment-là, des carottes, des oignons. Et je vais la laisser étuver au moins une heure de plus. Il va falloir plus de 2 heures pour la cuire. Mais on aura une dinde qui aura pris son temps, qui sera détendue, qui sera bien moelleuse.
Et qui sera moelleuse, c'est ça. Voilà. Et pas sèche, Olivier Pouls.
J'attends de vérifier, mon cher.
La poularde.
On va en faire une.
Crois que ce que je goûte.
Parlons de cette belle poularde à une poule qui n'a pas pondu, abattue vers l'âge de 5 mois. Moi, j'adore ça personnellement.
Très bon.
La poularde, je pense à celle de Pascal Cosnet, par exemple, dans la Sarthe de la Cour d'Armoise, qui fait des volailles engraissées avec des décoctions de petits laits et de 35 plantes différentes pour qu'elles nous fassent un bon gras, ces poulardes. Moi, j'ai trouvé le truc. Je le fais maintenant comme ça.
ça à chaque Noël. Je commence à four froid et je commence sur une cuisse pendant 45 minutes, sur l'autre cuisse en dessous. On met 170 degrés la température du four. Et ensuite, je la retourne sur le dos. C'est-à-dire que je ne mets jamais la poitrine en l'air de la poularde. Et franchement, c'est ce qui permet d'avoir, je trouve, une belle répartition entre le moelleux du blanc et la bonne cuisson, la juste cuisson des cuisses. Qu'est-ce qu'il en pense, le chef?
Oui, Laurent, vous avez complètement raison. C'est vrai que c'est toujours
délicat. Et on arrose. Hein.
Il faut l'arroser. Non. Après, il faut penser à une farce. Moi, je pense Noël aussi. Tout ce qui est volaille, il y a farce.
Ah oui, alors qu'est-ce qu'on met comme farce alors dans une poularde?
Moi, je suis un amoureux de la farce de ma grand-mère. Elle faisait une farce en prenant un peu de base de chair à saucisse. Elle y mettait des marrons dedans. Et surtout, elle y mettait du riz et du pain trempé dans du lait.
Simple.
Et bien assaisonné avec un beau verre d'Armagnac. Parce que l'avantage de mettre le riz et le pain, c'est qu'on a une farce qui est toujours moelleuse et une farce qui va nourrir pendant la cuisson la volaille.
On connaît la farce, vous savez, toute faite, toute prête, qu'on trouve à base de fromage frais et de fines herbes. Mais c'est vrai que ça marche bien, ça aussi, hein,
ouais,
quand on
est
un peu pris
bien.
De court. Quelques petits dés de pain d'épices dans un fromage frais aux fines herbes et qu'on met à l'intérieur de la volaille, ça lui donne un petit goût agréable et qu'on va pouvoir mettre ensuite à table pour le partager entre la volaille et la purée.
Et puis, si on a un tout petit peu plus de moyens, un petit beurre truffé qu'on va glisser sous la peau de la volaille, et juste au moment où on va la mettre dans le four,
c'est
le
joli,
beurre
ça.
Va fondre, il va nourrir évidemment la volaille, et puis la truffe va parfumer aussi.
Qu'est-ce qu'on boit avec une belle poule de Noël alors, Olivier Pouls?
Ben là aussi, moi j'aime le vin blanc, viande blanche, vin blanc. Alors c'est meilleur souvent, c'est plus intéressant en termes d'accord que les vins rouges, et notamment les vins de Bourgogne. Alors si on veut quelque chose d'un peu original et pas trop cher, on va dans le sud de la Bourgogne, où les vins sont encore accessibles, hein, du côté du Mâconnais par exemple. Prenez un joli Mâcon, et vous allez voir ce côté gras un peu beurré que vous trouvez dans le vin, s'accommode magnifiquement bien avec la chair des volailles.
Quel fromage sur le plateau pour le soir du réveillon? Parce que c'est vrai qu'il faut du fromage. Mais là, je trouve pareil que souvent l'erreur est de vouloir en choisir trop. Et c'est là qu'on se gourre parce que ça va déjà coûter plus cher. Autant se recentrer sur une sélection, on va dire quoi, de trois fromages. Ce serait quoi votre trio gagnant, Yves Candebord?
J'ai envie de dire, moi, j'ai même pas envie d'un trio gagnant. J'ai simplement envie de la médaille d'or.
Ah. Voilà.
La médaille d'or pour moi, c'est Noël, c'est le Vacherin.
C'est
un beau monde d'or.
La boîte chaude, oui.
Voilà, mais on en mange qu'à ce moment-là. C'est vraiment
le
fromage de saison.
Le public au studio Merlin acquiesce. Hein.
Je pense que, voilà, moi, je me fais un régal à Noël. Voilà. Ma bûche roulée, mon Vacherin, je suis le plus heureux des hommes.
Olivier Pouls, vous, pour accompagner le vin, il faut de bons fromages. Alors, vous mettez quoi sur votre plateau?
Eh bien, justement, je choisis un vin. Et si je choisis un vin rouge, je vais mettre un Saint-Nectaire. Parce que le Saint-Nectaire, c'est l'ami du vin rouge. Donc, juste un beau Saint-Nectaire. Et puis, si je prends un vin blanc. Je ne sais pas, une belle époisse, par exemple.
Ah, c'est bien.
J'aime ce fromage aussi.
Il passe
aussi,
pas inaperçu. Hein.
Ah non, non, non. Il s'annonce aux invités avant d'arriver dans la pièce.
On le voit venir. Moi, j'ai choisi, ce sera une pâte pressée cuite. Ça peut être un comté ou un beaufort. Ensuite, une pâte persillée. Alors là, on a le choix entre un roquefort ou un bleu de termignon, par exemple, ou la fourme de Montbrison. Moi, je prends du roquefort. Et puis ensuite, une belle croûte fleurie, enfin, un camembert, quoi, ou un brie de Meaux, par exemple.
Oui, mais là, je ne peux pas vous proposer l'association des vins. C'est compliqué parce que les trois fromages sont tellement différents que trouver le dénominateur commun, c'est difficile. Peut-être un vin blanc. Un vin blanc sec.
Et trois vins, Olivier.
Ah oui, d'accord. Bah.
Ah oui, mais c'est vrai qu'on va faire des allers-retours.
Bah là, prenez un vin blanc sec avec votre petit plateau.
Eh bien, je prends. Il vous manque peut-être des idées de cadeaux. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec une sélection de beaux livres de cuisine. A tout de suite au studio Merlin, en public, sur Europe 1. Bon samedi midi.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Queen, la voix de Freddie Mercury, quelle voix quand même. Joyeux Noël avec un petit peu d'avance, on y est nous. En tout cas, à la table des bons vivants, on vous aide à préparer le menu du réveillon. On vient de faire un bel inventaire des saumons, des foie gras et puis des volailles de fête.
Et j'ai mis mes chaussons devant la cheminée.
Exactement, attention qu'ils ne brûlent pas. Jean-Luc Petit-Renaud va être de la partie dans un instant. Cyril Lignac va nous rejoindre dans quelques minutes avec ses bûches de Noël. Mais avant cela, on a quelques idées de cadeaux pour vous, de beaux livres de cuisine. On va commencer par vous, Yves Candebord, avec un très beau livre d'un grand cuisinier.
Alors, c'est un très très beau livre, c'est presque un livre de cuisine d'art contemporain. Voilà, et pour moi, c'est un cuisinier, Alexandre Gauthier, qui rend hommage à sa maison et à sa région.
Le Pas-de-Calais.
Le Pas-de-Calais.
La Grenouillère, la Madeleine sous Montreuil.
La Côte Opale et la Grenouillère. Alexandre Gauthier est un cuisinier qui ne se met pas en valeur dans ce livre. D'ailleurs, il n'est pratiquement pas en photo.
Ah non, il y a juste une photo de lui à la fin.
Une toute petite photo de lui à la fin. Mais par contre, moi qui suis habitué de cette maison, parce que je trouve que c'est un lieu assez exceptionnel, quand je vois l'ensemble du livre, je me vois dans la maison. C'est vraiment pas un livre qui est surfait ou qui est surjoué. C'est un vrai livre d'émotion, d'amour d'Alexandre pour sa maison et d'amour d'Alexandre pour sa région et surtout la Côte Opale.
Combien ça coûte, Yves Condebord ?
Alors moi, ça coûte 45 euros. Et pour 45 euros, on a un sacré cadeau de Noël.
Olivier Pouls, quel est votre livre de Noël ?
Ben regardez, c'est un sacré livre.
C'est un annuaire.
Alors là, pour le coup, je peux vous dire que c'est un livre ultra concret. Quelle est la viande la plus universelle sur cette terre ? Ou quel est ce produit que l'on mange partout ?
Bah, le poulet.
Le cochon !
Bah, c'est le poulet.
Ah, bah, le béarnais, bah, bien sûr. On le voit revenir, le béarnais.
Eh bien non, c'est le poulet. On en mange partout. Alors, ce livre, Le poulet voyageur, 7 ans de travail, plus de 1000 recettes qui ont été récoltées dans le monde entier, est une véritable Bible. Il est signé Mireille Sanchez. C'est absolument incroyable. Vous allez voyager de l'Érythrée au Japon, de la Croatie à l'Espagne, de la Chine au Portugal, partout, 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 avec des recettes qui sont toutes bien expliquées, surtout faisables, à condition parfois de trouver les ingrédients. Mais c'est une encyclopédie absolue sur ce gallinacé.
Combien ça coûte ?
35 euros aux éditions BPI.
Et alors moi, j'ai choisi un livre qui s'appelle Paul Bocuse, Héritage, paru chez Flammarion. C'est un très beau livre parce qu'il raconte la vie et l'histoire de Paul Bocuse à travers ses recettes préférées. Mais attention, pas uniquement les recettes du restaurant, hein, comme la soupe VGE, comme la volaille en vessie. Non, c'est les recettes qu'aimait aussi Paul Bocuse, comme le pot-au-feu, la blanquette, le gratin de cardon à la moelle, comme on le fait actuellement, en ce moment, du côté de Lyon pour la Noël. C'est un très beau livre où on apprend de belles choses grâce aux témoignages des proches de Paul Bocuse, de nombreux chefs sont venus parler. Voilà, ça vaut moins de 30 euros. Paul Bocuse, Héritage de François Simon et Patricia Ziza chez Flammarion. Et ben voilà, vous savez tout, on est paré pour Noël. Si vous manquez des idées, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Cette saison, Jean-Luc Petit-Renaud attaque la bûche ce midi. Alors c'est une tradition et vous connaissez le camarade de Jean-Luc. Il y tient à la tradition. Il s'est donc penché sur l'histoire de la bûche. Un petit conte de Noël, on va dire, à la façon de tonton Jean-Luc. Bonjour tonton.
Bonjour les beaux enfants. Alors comment on prépare ce Noël ? J'espère que vous êtes prêts à dégoupiller la papillote pour vous mettre en bouche. Alors on va parler de la bûche de Noël, la vraie de vraie. Ça vient d'une sorte de tradition. On pense à cet hiver qui va bientôt peut-être se terminer. Donc on implore les grands dieux de vouloir faire que les saisons vont être prolifiques en récolte, etc. Donc on va choisir une très belle bûche de bois qui devait brûler pendant 12 jours. Et puis autour de cet arbre, les parents glissaient quelques petits bonbons pour les enfants aux quatre coins de la cheminée. Et figurez-vous, en découle un beau gâteau. Alors c'est une génoise que l'on va sortir du four, suffisamment moelleuse, et puis qu'on va déposer sur un torchon humide pour pouvoir la rouler. Et on a prévu la crème au beurre. Ça, croyez-moi que ça profite, comme on dit au pays. J'ai des souvenirs d'enfance fabuleux. Ma mère faisait la bûche. On était vraiment au bord de la table, vous savez, le nez collé sur la toile cirée qui recouvrait la table. Et on attendait qu'elle tranche les embouts de cette bûche. Et on commençait bien avant l'heure à goûter cette bûche. Alors c'est un vrai régal, très loin de la bûche du pâtissier professionnel, avec ses mousses, avec tout son soin, etc. Là, on a la vraie bûche de famille. Et après tout, Noël, qu'est-ce que c'est ? Un magnifique rendez-vous de famille, non ?
Mais comment ? Évidemment. C'est tellement bien dit encore une fois. Merci, tonton Jean-Luc, et joyeux Noël, Jean-Luc Petit-Renaud, qu'on retrouvera évidemment dès la semaine prochaine à cette table. C'est tellement vrai, ça, la découpe des entames de la bûche et qu'on va manger comme ça au coin de la table. Hein ?
Alors, on les mangeait ou on ne les mangeait pas, parce que nous, on voulait les manger, mais en général, ils les remettaient sur la bûche parce que ça faisait, en fin de compte, la tranche du tronc.
Ah oui, exact.
Oui,
aussi.
C'est pour ça que
oui.
Jean-Luc les mangeait, il avait de la chance, parce que moi, je me faisais taper sur les doigts, j'avais pas droit. Hein.
Non, et puis le moment de la décoration de la bûche mettre les petits personnages, tout ça, c'est sympa.
Alors la tendance est aux bûches véganes et sans gluten, certes, mais la bûche classique se réinvente chaque année. Nous allons la partager, la classique, avec Cyril Lignac, le chef cuisinier et pâtissier, sera avec nous dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Ah, on y est, hein, y a pas de doute. Merci Maria Carré. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes bien entourés pour cette émission de Noël avec un public d'amis auditeurs. La table s'agrandit de plus belle, c'est le moment d'accueillir notre invité, un invité que nous sommes ravis de recevoir pour préparer le réveillon avec vous. Originaire de l'Aveyron, il quitte sa terre natale après son apprentissage pour débarquer à la capitale. Il découvre la grande cuisine auprès d'Alain Passard. Remarqué dans les cuisines du restaurant La Suite par M6 à la recherche d'un jeune chef, il devient le chef préféré des Français sous l'œil des caméras. De nombreuses émissions, 5 pâtisseries et 3 restaurants plus tard, il offre une vision contemporaine de la cuisine. C'est Cyril Lignac.
Merci.
Bonjour Cyril. Bonjour.
Merci.
Ravi de vous retrouver. Quel parcours, mais quel beau parcours. La télévision, les pâtisseries, les restaurants. Qu'est-ce qui vous fait courir comme ça? Vous avez un appétit de dingue et démesuré.
C'est la passion en fait. C'est la passion de faire la cuisine, de faire la pâtisserie, de développer des restaurants, de faire des lieux de vie.
Un joli travail d'équipe.
Qui me tient à cœur, ouais.
Et vous venez nous voir avec un très joli livre qui s'appelle « Saison », paru aux éditions de La Martinière. Vous êtes très attaché évidemment aux produits de saison, ouais, et à la cuisine des saisons. J'aime beaucoup votre livre, il est très beau, très épuré et on retrouve bien votre cuisine contemporaine et parisienne, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme, ouais, c'est-à-dire chic, élégante et avec des petites pointes comme ça étrangères. Hein. Il y a des petites notes japonisantes dans votre cuisine, Cyril Lignac, de temps en temps.
C'est sûr qu'on est... On est loin de la cuisine aveyronnaise.
Ah oui, oui, il n'y a pas d'aligo. Je l'ai cherché, je n'ai pas vu l'aligo.
Même si j'ai été biberonné à celle-là et que je l'adore. Non, mais c'est vrai que ce livre, il est tourné autour de Paris. C'est une photo de la cuisine que je fais aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je suis à Paris. Je voulais aussi rendre hommage à cette ville qui m'a tout donné. Paris, ses monuments, l'esprit,
oui, il y a de jolies photos,
et
oui,
la vie à travers les différentes saisons.
Qui vous a transmis le plaisir de cuisiner, Cyril Lignac?
Et j'ai appris la cuisine à Belcastel avec des femmes. Et j'ai toujours eu cette culture de la cuisine des mamans, des mères nourricières, des mères cuisinières. Et c'est à travers cette sensibilité-là que je me suis construit.
Et votre maman cuisinait bien aussi. Il y avait pas,
oui,
mal d'ail, de beurre, de,
oui,
persil dans sa cuisine.
Oui,
une
aussi
cuisine très généreuse et parfumée.
Aussi, c'est vrai que c'était la tradition dans l'Aveyron. Mais c'est vrai que je le dis toujours avec beaucoup de rigolade. C'est vrai que mes parents travaillaient et ma mère faisait toujours à manger. Un sauté de veau de l'Aveyron avec des olives. On mangeait bien, mais on mangeait le même plat pendant 3 jours.
C'est ça.
Parce que comme elle travaillait, il y avait toujours la marmite sur le balcon de la maison. Et puis on la rentrait, on réchauffait, puis on a mangé pendant 3 jours. Et Dieu sait que parfois je pestais. Mais bon, c'était comme ça.
Quel est votre goût de Noël, Cyril Lignac? Ça y est, on est à J-3 avant le réveillon, là.
Alors... Moi, Noël, c'est un peu particulier, c'est assez paradoxal parce que...
C'est de ne rien faire.
Non, c'est de préparer. Donc là, je fais Noël chez ma sœur qui va faire la cuisine, qui a la pression, parce qu'elle se dit, oulala, qu'est-ce que j'ai bien pour faire à manger. Et moi, je descends quelques truffes et je fais toujours l'apéritif avec du pain, du beurre, un peu de truffe, de la fleur de sel et un filet... Ouais. Voilà.
Et alors là, vous c'est nous bon. Faites notre transition parce qu'on va parler de la truffe, justement, avec
c'est
Yves Candebord. C'est vrai que la truffe, ça fait partie des vrais plaisirs, ouais, de fête quand on peut s'en procurer. Mais il y a plusieurs façons, vous allez entendre, de pouvoir acheter de la truffe de façon accessible parce que ça coûte cher au départ, hein, la truffe, Yves Candebord.
Oui, ça coûte cher. Déjà, c'est un produit qui est onéreux. Et c'est vrai que là, on n'est qu'en début de saison, donc on n'en a pas tant que ça.
Oui, et puis elles ne sont pas encore très mûres.
Elles ne sont pas encore très mûres. Je dirais c'est dans un mois et demi, vraiment, qu'elles vont s'exprimer, qu'on aura vraiment la qualité la pure de la truffe. Et surtout, il y a une grosse demande. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de production, il y a une grosse demande. Donc les prix flambent, c'est Noël, tout le monde en veut. Et ça coûte entre 1 500 et jusqu'à 3 000 euros le kilo.
Alors écoutez bien, Yves Candebord a une astuce pour acheter de la truffe de façon accessible.
Eh bien disons que j'ai découvert quelque chose de nouveau, c'est tout nouveau, ça vient de sortir un peu dans les grandes...
Cyril Lignac ouvre des yeux.
Non, je regarde.
Non mais c'est vrai que c'est étonnant, quoi, que vous allez savoir d'où ça vient.
Non mais je suis curieux, oui.
Ça vient d'où?
C'est de la truffe congelée, on trouve ça... Voilà.
Truffe congelée, ouais, surgelée.
On trouve ça dans les grandes marques de produits
chez Picard,
congelés, dont chez Picard. Mais il faut savoir une chose quand même par rapport à la truffe congelée, c'est que la truffe, quand on la congèle, il y a une explosion des arômes.
Alors là, c'est des lamelles de truffe, hein, qui sont surgelées. Il y a quoi? Il y a 15 grammes, là.
Là, il y a 15 grammes.
Ça vaut combien, ça?
Alors ça coûte 24 euros,
ouais,
15 grammes.
Donc c'est accessible.
Ça fait quand même 1 500, il faut quand même le remettre,
oui,
au kilo.
Bien sûr.
Ça coûte quand même 1 600 euros le kilo.
Mais il ne faut pas une tonne pour que ça parfume.
Exactement. Ça vous donne la possibilité d'acheter 15 grammes de truffe. Et avec 15 grammes de truffe, on peut se faire pratiquement... Pour 2 personnes, un joli petit plat. Et donc, à 24 euros pour 2 personnes, ça reste raisonnable, même si ça a un coût. Et surtout, l'intérêt, c'est que ça a du goût.
Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on ne peut pas la travailler comme une truffe fraîche, j'imagine.
Alors, c'est exactement ça. Il ne faut surtout pas vouloir la travailler comme une truffe fraîche, parce qu'elle n'a pas les mêmes caractéristiques. Mais par contre, il faut l'incorporer à une préparation déjà prête. C'est-à-dire, vous allez faire tout simplement, par exemple, une purée un peu plus beurrée que la normale et vous rajoutez les lamelles de truffe dedans juste avant de la consommer et vous avez une purée truffée qui est merveilleuse. Vous faites un risotto de façon classique aussi. Vous récupérez les truffes à la dernière minute, vous les mettez incorporées au risotto et vous avez un risotto truffé qui est vraiment très intéressant.
Et ben voilà, qu'est-ce qu'il en pense Olivier Pouls, il est en train de déguster la...
Olivier est en train de déguster justement une crème de céleri,
oui.
Simple et classique, mais qu'on a truffé à la dernière minute avec ses truffes congelées.
Alors c'est vrai que la truffe congelée n'a pas la même texture, elle est un petit peu plus molle, mais en termes de parfum, elle est là. Indiscutablement.
Ouais, c'est vraiment
c'est ça bon, du ça. Goût. C'est vraiment intéressant.
Cyril Lignac.
C'est vrai que c'est un produit qui est cher. C'est un produit de luxe, c'est un produit de fête. Mais je trouve que c'est bien de pouvoir avoir accès et pas forcément en manger trop. De toute manière, c'est puissant.
Oui.
On n'a pas besoin de beaucoup pour se faire plaisir. Et là, en effet, je la mange dans la soupe. Elle est très parfumée. Et là, même si je la prenais et que je mets un petit peu de pain de campagne avec un tout petit peu de beurre, je la pose dessus, un peu de fleur de sel, ça fait un joli apéritif. Nous, on la mange vraiment un peu comme un toast à l'apéritif. Ça permet d'avoir ce petit goût sympa, sans en mettre beaucoup.
C'est ça,
et ça, c'est bien.
Et là, on la retrouve cuisinée. Ouais, eh bien, merci Yves Candebord.
Bon.
Cyril Lignac, vous êtes à la tête du meilleur pâtissier. Vous êtes un bec sucré. On va en avoir la preuve dans un instant avec votre bûche de Noël. Et puis, une autre bûche à faire à la maison. Celle-ci, signée Cyril Lignac, juste après les titres du journal de la mi-journée. A tout de suite, les amis.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux cuisses d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Du saumon fumé à la truite fumée en passant par le foie gras et la langue Lucullus, sans oublier un joli casting de poule de luxe. C'est une spéciale course de Noël ce samedi matin en public au studio Merlin à Europe 1. Et nous allons passer à la bûche en compagnie de notre invité. On est ravis de le recevoir. C'est Cyril Lignac qui est avec nous, qui est venu nous rendre visite avec son dernier livre qui s'appelle Saison. Si vous êtes en manque d'idées de cadeaux de Noël, eh bien voilà, un livre accessible. 25€, Saison, les 4 saisons cuisinées par le chef parisien, parce qu'on peut dire ça maintenant, il n'est plus de l'Aveyron, il est parisien, Cyril Lignac, et il est venu nous voir avec ses bûches. Alors voilà, vous êtes un pâtissier, Cyril Lignac, je crois que vous êtes un des rares chefs à pouvoir cumuler les deux comme ça, à ne pas vouloir choisir entre la pâtisserie et le salé en fait.
Hein. En fait, quand j'ai démarré, donc souvent on me pose la question si j'ai d'abord été pâtissier ou cuisinier. J'ai d'abord été cuisinier parce que je suis rentré au lycée hôtelier, et qu'au lycée hôtelier on apprend le service et la cuisine, et après la cuisine. Sauf qu'après, j'ai toujours été gourmand. J'avais envie d'apprendre la pâtisserie, donc j'ai fait un CAP de pâtissier. Et j'ai découvert dans la pâtisserie une rigueur, une technique,
une précision
qui m'a toujours servi dans la cuisine. Même si maintenant, j'aime aussi cette cuisine instantanée où on n'est pas obligé de toujours tout mesurer. Ça, c'est quand même aussi l'avantage du métier de cuisinier, ce qui ne fonctionne pas avec la pâtisserie.
Alors, vous avez combien de pâtisseries aujourd'hui ? Vous en avez 5.
J'en ai 5.
Hein. Oui. Quand on est pâtissier, la bûche, c'est un morceau de bravoure quand même. Hein. Tous les ans, il faut se creuser la tête pour faire des bûches.
Alors, il faut se creuser la tête. Et puis, en plus, il y a une espèce de surenchère.
Ah oui, on en a parlé tout à l'heure.
De tous les pâtissiers.
Une bûche carrousel avec une grande roue, avec des prix parfois un peu astronomiques.
Moi, j'ai abandonné
l'idée. Elle est très belle, votre bûche. Oh là là.
Et je fais des bûches qui sont accessibles et qui tiennent, qu'on peut transporter. Voilà, donc il y a les bûches artistiques et puis il y a la bûche du quotidien.
Ça, c'est une bûche du quotidien, mais qui est très belle. Elle est blanche comme neige. Et elle est rectangulaire. Elle est recouverte de petits flocons. C'est quoi, ça ?
C'est de la noix de coco.
Ah, noix de coco et la garniture à l'intérieur.
Alors, en fait, c'est un biscuit financier aux amandes, assez épais, avec à l'intérieur une compotée de passion mangue, une feuille de chocolat pour que ça craque, pour me rappeler.
Le croquant.
Exactement.
Le gourmand croquant.
Le gourmand croquant.
Le fameux. Hein.
Et puis ensuite, une ganache montée à la noix de coco. Donc on est dans des saveurs délicates, pas trop sucrées, un peu acidulées.
Cyril Lignac, c'est bien d'en parler, mais il faut qu'on la goûte, votre bûche.
Allez.
Quand même. Hein. Vous êtes un homme généreux, vous êtes venu avec cette belle bûche à la noix de coco qu'on va faire goûter à notre public. C'est vrai qu'il y a plein de textures, c'est ça que j'aime. Hein. Il y a ce côté...
Je crois qu'Yves, il a déjà tout mangé. C'est léger.
Non, mais c'est léger.
C'est léger.
Ah oui.
C'est très bon.
C'est frais.
Mais c'est moi, pas trop sucré.
Mais moi, c'est pas de la bûche. Voilà, c'est tout.
Ah ouais.
Vous le savez,
c'est moi, c'est le biscuit roulé.
Ah ouais, moi aussi. Voilà. Non, mais moi aussi, moi aussi. Non, mais alors, attends. Alors, moi aussi.
Parce que,
c'est assez. Non, mais c'est très bon, attention.
C'est très
marrant parce que. Alors, la bûche de Noël, c'est ça, mais là, il y a un vrai dilemme. Parce que moi, j'ai toujours. Ma mère faisait toujours cette bûche roulée avec un biscuit aux œufs, cuit au torchon, voilà. Avec de la crème au beurre, etc.
Bon. Comme une génoise, hein.
Sauf que l'an dernier, j'ai dit, tiens, je vais faire une bûche roulée. Eh bien, il se trouve que c'est la bûche qui s'est le moins bien vendue.
C'est vrai?
Parce que. En effet, nous, je pense que, j'ai envie de dire, dans les campagnes, on aime ce gâteau roulé, bûche roulée.
Mais je vais vous dire un truc, moi, je crois que la bûche roulée, on aime la faire à la maison.
Certainement.
Et on aime aller chez les pâtissiers, trouver justement des accords de texture et des accords de saveur qu'on ne pourra pas faire à la maison.
Oui, oui.
Comment vous la faisiez, la bûche roulée, à la maison? Parce que vous avez une recette à vous, tiens.
Oui,
vous.
La recette de la bûche, en fait, c'est un biscuit. Donc un biscuit, c'est... des jaunes d'œufs avec du sucre que l'on émuchonne, c'est une recette très simple. Quand les jaunes d'œufs sont bien montés, on tamise la farine dessus, on mélange, on allège avec des blancs d'œufs, on met sur une plaque, alors maintenant un peu 6 pattes, on cuit au four à 180 selon la puissance, parfois 200 parce que plus on cuit vite, plus le biscuit monte et le temps de cuisson est raccourci, donc on a plus de moelleux.
Un gâteau aérien, voilà.
Un gâteau aérien. Ensuite, moi j'ai toujours vu ma mère faire comme ça, je trempe le torchon, dans l'eau bien mouillée, je le mets à plat, je démoule le biscuit sur le torchon, du côté dessus du four, sur le biscuit mouillé, et ensuite je le laisse refroidir doucement. Soit on fait une crème au beurre, soit, moi j'aime bien simplement une bonne pâte de noisette, j'étale, je le roule au torchon, et je le coupe et je le mange comme ça. Je m'en fais même à la maison pour le petit déjeuner.
Une belle pâte de noisette, voilà, traditionnelle.
Traditionnelle.
Hein,
voilà.
Vous en vendez même d'ailleurs.
Ouais,
hein,
sans jus de panne.
On la tartine à l'intérieur. Et voilà. Et ben voilà, vous l'avez votre biscuit roulé, Yves Cordebord.
Hein, mais on peut faire la même recette de biscuit.
Avec une génoise.
S'amuser aussi à mettre des saveurs différentes. Oui. À la rendre moderne.
Roulons le biscuit et amusons-nous avec les garnitures. Cyril Lignac est notre invité. Nous revenons dans un instant, ici en public, au studio Merlin. Elle vous plaît, la bûche de Cyril Lignac? Eh ben tant mieux.
Merci.
Parfait. On est d'attaque pour répondre à toutes vos questions que vous avez posées, non pas au 3921, mais ici au studio Merlin. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. 11h30, on passe à table sur Europe 1.
Oh, de dessert, c'est une bûche?
Non, c'est Clouc.
Laurent Mariotte.
Joyeux Noël,
fait. Et bon réveillon.
Ah non, nous, c'est pas Cloug, hein. On est avec Cyril Lignac, c'est pas Cloug. On a dégusté sa belle bûche, justement, au biscuit coco. Et puis, il nous a donné son truc aussi pour faire la bûche roulée à la maison. Alors, on décline vraiment la table du réveillon. On a parlé de foie gras, de saumon fumé, de volaille. Cyril Lignac, vous allez faire votre menu de réveillon en famille avec votre sœur, vous nous avez dit. Vous avez déjà une idée du menu, justement?
Ben, en principe, on mange les petites tartines avec le pain et le beurre et quelques truffes. Des escargots, des coquilles Saint-Jacques, on fait des beaux tourne-dos de bœuf au braque de chez nous. On mange toujours bien, de toute manière, on a des traditions gourmandes et on mange toujours bien. Mon père cuisine super bien, donc il n'y a pas de sujet autour de tout ça.
Alors, vous avez des questions à poser ici au studio Merlin sur des produits et des idées de recettes pour le réveillon. On va essayer de vous aider. Une première question, tiens. Bonjour, bonjour.
Oui, bonjour, donc c'est Anne.
Bonjour Anne.
Et je voudrais préparer un carpaccio de Saint-Jacques et je voudrais savoir le temps maximum pour appliquer la marinade pour éviter qu'elle ne soit trop cuite.
Alors moi, je sais pas ce que... On a deux chefs là, mais moi je ne marinerai même pas la Saint-Jacques, on la veut fraîche, non, sur un carpaccio, Cyril Lignac?
Oui,
juste appliquer.
Appliquer au dernier moment.
Au dernier moment,
Il faut que vous taillez au Saint-Jacques directement dans l'assiette de service, vous préparez, et à la dernière minute, juste avant de servir... C'est vraiment instantané, parce que si vous cuisez la Saint-Jacques, ça n'a pas d'intérêt.
Voilà,
la Saint-Jacques, il faut vraiment garder cette texture et ce goût iodé de la crue, même si c'est un côté un peu sucré. Avec un pinceau, vous préparez une marinade.
Un petit voile d'huile d'olive éventuellement dans le fond.
Moi, j'aime bien, j'ai découvert, on a fait pas mal d'essais, mais il y a le carpaccio traditionnel où on coupe assez fin dans l'assiette, froid, et ensuite on met donc une vinaigrette, ce que l'on a envie, une marinade, comme vous l'appelez. Et la deuxième chose que je fais, que je trouve formidable, c'est que je la coupe un peu plus épaisse. Je la mets sur l'assiette, je la passe un tout petit peu au four, juste pour la tiédir. On garde le cru, on a un peu plus de mâche, et on a ce cru tiède, un peu chaud, avec la vinaigrette, et on a la mâche de la coquille Saint-Jacques.
Mi-cru, mi-cuit, c'est vrai que le citron vert marche bien avec la Saint-Jacques, si on veut. La réglisse aussi, sur un carpaccio.
Je vais appliquer la recette de Cyril.
Ça, c'est vachement bien.
C'est chic, vous allez faire du Lignac au réveillon, quand même.
C'est chouette, ça.
C'est pas mal.
Plus épaisse.
Une autre question au studio Merlin. Bonjour madame.
Laurent, je voudrais servir du foie gras pour le réveillon de Noël avec un chutney de pommes.
C'est une bonne idée déjà, je
Alors,
trouve.
Comment le... Je n'arrive pas à en trouver dans les magasins. Puis-je le faire moi-même ?
Ah, bien sûr qu'on peut le faire soi-même. Des pommes que vous avez de variété locale ou de la Granny Smith qui est un peu plus acide, on la taille en petits cubes, on met de l'oignon, Cyril Lignac
l'oignon.
Aussi, hein, et du vinaigre, c'est
et
ça,
du
c'est
vinaigre,
le côté
c'est le d'aigre doux, en fait. Et ce qu'il faut, c'est le laisser longtemps, longtemps. Plus on le cuit doucement, plus on le laisse longtemps, meilleur il est, en fait.
C'est ça,
il
faut et que après, ça réduise bien.
Exactement.
On met du sucre aussi, un peu.
Un tout petit peu.
Un petit peu de sucre.
Le débat est là. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre de sucre, Laurent.
C'est vrai ?
Non, parce qu'étant donné que la pomme, déjà qu'elle est fruitée, même si c'est la Granny Smith qui est un peu acide, on a l'oignon aussi, qui est tout en rondeur.
C'est vrai, il y a du sucre là-dedans.
Si on fait compoter déjà un peu l'oignon, qu'on rajoute les pommes, et comme dit Cyril, le laisser tout doucement, et mettre le vinaigre 4/3 de cuisson, je pense qu'il n'y a pas besoin de sucre.
Quelle est la durée maximale de cuisson ?
Ah, voilà une question précise, parce que c'est vrai.
La durée maximale de cuisson, c'est par rapport à l'oignon, surtout. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que la pomme, elle cuit assez facilement. C'est quand l'oignon est fondant. Voilà, vraiment, vous le goûtez quand vous avez des oignons qui sont vraiment fondants.
Faut plus que ça croque, ouais. Voilà.
Faut plus que ça croque. Donc,
mais c'est une bonne heure, hein, si on veut avoir quelque chose de bien compoté.
Ça va, vous allez le voir dans la casserologie. C'est vrai que souvent, on demande les temps de cuisson, mais ce qu'il faut, c'est la cuisine, ça se vit. Donc, il faut regarder.
Et goûter.
Et de toute manière, il ne va rien vous arriver. Au mieux, plus c'est long, j'allais dire, plus c'est bon. Hein. Mais au mieux, ça va compoter. Donc, il faut juste réguler la flamme.
Tout doux, tout doux, tout doux.
Bijou, tranquille. On a le temps pour le réveillon et on cuisine.
Et ouais.
Tout doux.
Merci
hein.
Tout doux.
Eh bien, merci, mesdames, pour vos questions. Un joli carpaccio de Saint-Jacques avec sa marinade qu'on met au dernier moment. Et puis, un chutney de pommes maison. On peut en faire à la poire aussi. On peut mettre un peu de poire dans le chutney.
Des raisins.
Hein. On peut faire l'ananas.
La rhubarbe quand c'est la saison.
On peut s'amuser.
Des petites dates aussi à l'intérieur, si on veut que ce soit un peu sucré.
Et ben
il y a plein de manières de faire.
Il s'en passe des choses, vous avez vu, dans la tête tout de Cyril
doucement.
Lignac. Tout doux le chutney, tout doux. On se retrouve dans un instant pour les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Et nous allons découvrir les souvenirs de Noël de Cyril Lignac. Côté fourchette, à tout de suite sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte. It's Christmas time and time for a carol. Time to sing about the little king. To fill the bowl and roll out the barrel. Have ourselves a glee.
Alléluia les amis, nous soyez les bienvenus, nous sommes en public pour la dernière partie de l'émission avec un public et un invité bon vivant, c'est Cyril Lignac qui n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec sa bûche, sa dernière création à la mangue et à la noix de coco et ses jolis... les oursons, vous avez fait un truc avec ces oursons, hein, on vous voit partout avec vos pyramides d'oursons. Et alors là, il y en a au caramel, il y en a au chocolat blanc, c'est ça hein.
C'est en fait, je m'amusais à les colorer gris-argent, or, bronze. Et puis là, je me suis dit, on va passer à des saveurs différentes de chocolat. Il y a le chocolat dulce qui est un chocolat caramel, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir. Et on a fait une boîte complète avec tout ça.
C'est réussi.
Mais c'est vrai que c'est tellement régressif et bon. Mais
ça fait du bien, voilà. Et puis c'est la période, hein. C'est la période pour retomber en enfance.
J'ai 10 ans, là. J'en mange, j'ai 10 ans. On a chaque bouchée, je régresse de 2 ans.
À la sortie de l'école. Vous m'avez piqué des figures panini, d'ailleurs. Il faudra me les rendre. Hein. Cyril Lignac, vous aviez un restaurant étoilé juste à côté d'Europe 1, le 15e. Et vous avez jeté un petit pavé dans la mare il y a quelques mois en disant « Voilà, j'en ai marre, je ne veux plus cuisiner pour les guides. C'est fini, la course au classement, la course aux étoiles, c'est plus mon truc. » Donc, qu'est-ce qu'il va devenir, ce restaurant ?
Je vais en faire un restaurant italien. Qui va s'appeler Ischia. Et,
vous aimez l'Italie, hein, vous avez vu avec Jean-François Piège dans Chef contre Chef, et vous êtes régalé en Italie.
J'en ai profité pour aller prendre des cours de pâtes avec les mamas à Naples. Un restaurant autour de la cuisine italienne, avec bien entendu les pâtes, les ravioles, et les crus, et tout ce qui fait vraiment la cuisine italienne, mais aussi la cuisine cuisinée italienne. L'osso buco, les ragoûts de veau, les ragoûts de bœuf, tous ces plats que... La cuisine italienne, c'est pas on va au restaurant manger un plat de pâtes.
Ce ne sont pas que des pâtes et des pizzas, bien entendu. Mais ces étoiles, à un moment, vous les avez recherchées quand même, non, dans les guides. C'est important pour vous, puisque vous êtes né sous l'œil des caméras. Et vous avez eu envie de cette reconnaissance des guides aussi, à un moment, non ?
Mon choix, il est purement personnel. De dire, j'arrête le 15e. Ça fait 15 ans que j'avais le 15e. Et il était temps pour moi de couper aussi le cordon entre cette émission de télé Oui Chef et le 15e pour... changer
c'est vrai
aussi.
Que c'est le prolongement de l'émission,
exactement.
Ce
donc,
restaurant.
C'était aussi une manière de fermer, d'arrêter et de travailler d'une autre manière et de penser aussi d'une autre manière. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est un choix qui m'est purement personnel et qui m'incombe. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincu qu'un bon restaurant, c'est une table pleine. Et c'est aussi le cas de Yves.
C'est ce que j'allais vous dire. À côté
on
de
pas
vous,
d'étoiles et on, fait,
on peut être très heureux et bien travailler sans étoiles, n'est-ce pas Yves Cordebourg?
Oui, de toute façon, c'est un choix que moi, j'ai dit haut et fort depuis les années 90 et qui se confirme de jour en jour, même si je pense que Michelin est le seul guide français vraiment sérieux et qui représente la France gastronomique dans le monde entier et qu'on en a besoin. Mais là, sa dicta et sa puissance et la pression qu'il met, est, moi, je trouve, est surhumaine par rapport à notre métier, qui est déjà un métier où on a déjà beaucoup de pression, un métier où il y a beaucoup d'investissements, qui est déjà, je trouve, très dur humainement et moralement, sans rajouter ça. Mais quand on voit malheureusement qu'un grand chef cuisinier comme Marc Véra est capable de dire « j'aurais préféré perdre mes parents que perdre des étoiles »,
on peut pas dire des choses
pareilles. Vraiment se poser des questions. Non, mais il le dit avec sincérité, il faut vraiment se poser des questions. Et j'espère que les grands chefs français vont se liguer pour avoir une intelligence...
Il dit pas ça, il dit que c'est pire que la disparition de ses parents, c'est ça qu'il disait. Cyril Lignac, vous nous avez parlé de votre menu de réveillon. Est-ce que vous savez ce que vous allez boire déjà au menu de réveillon?
Ah, j'avoue que j'ai pas préparé encore ma cave.
Eh ben, regardez.
Mais,
est-ce qu'elle est pleine?
Mais elle est pleine, elle est pleine. Elle est pleine de bonnes choses, mais j'ai pas réfléchi à.
Tu veux qu'on te vienne t'aider à choisir?
Bien, nous ça, avons notre caviste officiel, sommelier en chef Olivier Pouls,
oui, va vous aider. On peut aller faire un petit tour dans sa cave pour lui donner 2-3 conseils.
Mais je suis sûr qu'elle est pas mal.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un petit cérémonial à faire, hein, déjà, Olivier Pouls. Déjà, on choisit les bouteilles le matin, on les sort de la cave, on commence comme ça.
Bah oui, Cyril, c'est pas au moment de passer à table qu'on décide ce qu'on va boire. Il faut l'anticiper un tout petit peu, et c'est vrai que dès le matin, bah, les vins blancs, on va les mettre au frigo, les champagnes aussi, de manière à ce qu'ils soient à la bonne température de service, parce que la température de service des vins, on ne le répétera jamais assez, c'est fondamental. Et même les rouges, on va commencer à s'en occuper aussi. Hein. Si on a des vins un peu vieux, on va redresser les bouteilles pour que le dépôt descende tranquillement vers le bas, et on va les laisser dans un lieu tempéré, entre 13 et 15 degrés, pas dans la salle à manger où il fait souvent 18-20.
Pas à côté du radiateur.
Non, non, plutôt dans le garage, dans une buanderie, etc. Et puis là, comme ça, on aura des vins à belle température.
Et les verres, pareil, on fait attention à ce qu'on choisit. On ne sert pas du vin dans n'importe quel verre.
Absolument. Donc, on oublie, même si ça fait plaisir à la mamie, son service en cristal de je ne sais quoi, avec les verres évasés. Et c'est parfois très beau, mais ce n'est pas très œnologique. Et aujourd'hui, plein de verres qui sont faits pour la dégustation. Il faut privilégier ces verres-là. Et même pour le champagne, j'ai envie de dire, pas de coupe, pas de flûte, un beau verre à vin, parce que le champagne, c'est du vin, et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas traité aussi bien que du vin.
Moi, je suis tellement d'accord, parce que c'est vrai que c'est la tradition française de boire le champagne dans une coupe, mais je trouve que le champagne aujourd'hui, c'est un grand vin, et qu'il mérite d'être dans un verre plus évasé, à vin. Et en plus, c'est beaucoup plus agréable pour boire. On peut sentir, on est...
Dans une coupe, on sent rien.
Et ouais.
C'est ça, ça reste bloqué.
C'est vraiment bien ça, d'ailleurs, que vous le rappeliez.
À table, on reste sur le classique dicton blanc sur rouge, rien ne bouge ou pas, Olivier Pouls?
Quand on a une très belle bouteille, que ce soit de vin rouge ou de vin blanc, qu'on veut un peu mettre en scène et qui va être le clou du repas, on ne la garde pas pour la fin. Parce qu'à la fin, on a les papilles un peu fatiguées, on a mangé, on a bu.
On
peut empâter
les papilles.
Et on passe souvent à côté. Commencez en fait par votre meilleur vin, celui qui va, dès le début, alors que vous êtes en pleine forme, ravir tout le monde. Et si vous le gardez pour la fin, vous risquez de passer à côté. Donc après, on peut garder pour la fin du repas d'ailleurs des vins plus digestes, un petit coup de Beaujolais par exemple. Alors, il ne faut pas que ce soit interprété comme étant péjoratif, hein, mais un vin un peu plus frais, un vin un peu plus friand.
Un vin de copain, oui.
Voilà, alors qu'on va mettre le grand vin au début pour que tout le monde puisse vraiment bien en profiter.
Eh ben, merci Olivier Pouls, on retrouvera les références sur europe1.fr et on vous retrouve tous les jours de 16h à 18h chez le camarade Mathieu Noël dans l'équipé sauvage. Cyril Lignac, on est ravis que vous soyez avec nous pour préparer le réveillon. C'est la dernière partie de l'émission. On va vous passer sur le grill du questionnaire des bons vivants de Noël. Alors, cher Cyril Lignac, quel est le goût de votre enfance à Noël?
J'allais dire le foie gras.
Vous y avez goûté tôt?
Ah oui, parce qu'on faisait les canards à la maison. Donc on achetait les canards à la ferme à côté et mes parents découpaient les canards avec mes grands-parents et on faisait les canards pour l'année. Les cuisses, les confits, on faisait le foie gras. Et comme ça, l'hiver, ou même l'été d'ailleurs, toute l'année, on avait un bon confit de canard avec de la graisse de canard. Ma mère, elle faisait toujours les pommes de terre à la poêle, un peu de graisse de canard. On n'utilisait pas beaucoup l'huile, nous.
Elle était très bonne, graisse de canard, riche en oméga 3, excellente. Hein.
Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment mon goût de Noël, le foie gras, parce que c'est vraiment la tradition.
Le premier plat que vous avez cuisiné pour Noël, Cyril Lignac?
La bûche.
La bûche roulée, la fameuse.
La bûche roulée, exactement.
Celle que vous nous avez donnée tout à l'heure, oui. Votre plus beau repas de Noël, Cyril Lignac?
Celui de demain.
Ah, il arrive, il approche.
Non, mais tous les repas de Noël ont toujours été super parce que j'ai toujours passé Noël en famille et ça a toujours été des moments hors du temps où on se retrouvait tous ensemble. Donc, tous les repas de Noël.
Repas de famille le 24 au soir ou le 25 à midi, Cyril Lignac ?
Les deux, mon général.
Petit comité ou grande tablée ?
Petit comité.
Vin chaud ou lait de poule ?
Vin chaud.
Chocolat ou pâte de fruits ?
Chocolat.
Et foie gras ou saumon ?
Ah, foie gras.
Ah, vous l'avez dit. Et le mot de la fin, F-A-I-M ?
Gourmand croquant.
Ah ben voilà, et ben voilà, bravo ! Merci Cyril Lignac. Merci. Merci d'être venu.
J'étais très concentré.
Mais vous l'avez été, bravo. Et je rappelle votre livre « Saison » aux éditions de La Martinière. Vous cuisinez les quatre saisons d'une façon créative et contemporaine, comme l'est votre cuisine très parisienne, mais dans le sens chic et curieux du terme. Merci d'être venu.
Merci à vous.
On était ravis de vous recevoir, Cyril Lignac. Et puis merci pour cette belle bûche avec cette noix de coco, ce joli biscuit à l'intérieur et cette garniture à la mangue. On vous retrouve dans vos restaurants, bien entendu. Une nouvelle émission bientôt à la télévision ?
Non.
Le meilleur pâtissier ?
Oui, hein, voilà, le meilleur pâtissier. Mais bon, on vient de terminer. On va redémarrer les tournages au mois d'avril.
Et ben c'est ça. C'est là, avec des petites couleurs acidulées, comme on aime les retrouver. Voilà, ben vous embrasserez la belle équipe du meilleur pâtissier. Moi, j'embrasse la mienne. Merci à Lucie Lescourou, Julien Amat de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci Marion Sauveur, Olivier Pouls et Yves Candebord, Jean-Luc Arblade à la réalisation, Agnès Vaudin à la programmation. Les références et les recettes, parce qu'on a eu de nombreuses des recettes, elles vous attendent sur europe1.fr. Même adresse pour le podcast. Bon réveillon de Noël, les amis. Salut
Joyeux
Justine.
Noël. Joyeux Noël.
Bon préparatif. Faites le marché, la cuisine. Merci. Et le reste.